Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans les chiffres, les stratégies qui dessinent un peu l'avenir économique du Maroc pour 2026. Avec un objectif très fort, ramener le déficit budgétaire à 3% du PIB, c'est ambitieux, c'est clair, mais est-ce que c'est vraiment réaliste ou un pari risqué? Alors pour cette analyse, on s'appuie surtout sur le dernier rapport d'exécution budgétaire et de cadrage macroéconomique triennal. C'est une synthèse d'EcoBusiness qui nous sert de base. Notre but, décortiquer un peu tout ça, comprendre les hypothèses derrière et voir où sont les défis. Allez, on y va. Commençons par le gros titre, si vous voulez bien. Ce fameux objectif de 3% de déficit dès 2026. Et même le maintenir après. Et ça, couplé à une prévision de croissance de 4,5%. Bon, sur le papier, ça paraît solide. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Ça repose sur quoi, concrètement?
C'est une très bonne question. Parce que ce scénario, il est présenté comme réaliste, mais quand même conditionnel. Il repose effectivement sur un ensemble d'hypothèses assez précises. On n'est pas dans l'euphorie, hein. C'est plutôt un réalisme prudent. Le rapport table sur une récolte de céréales, disons, moyenne, aux alentours de 70 millions de quintaux. Pour l'international, on parie sur un baril de Brent plutôt calme, à 65 dollars, on est loin des sommets, quoi, et un taux de change dollar-dirham qui bougerait pas trop, vers 10,07. Et puis une demande étrangère, attention, celle adressée spécifiquement au Maroc, qui augmenterait de 3%.
Mmh.
Et bien sûr, il y a toujours ce facteur, la pluie. Une partie non négligeable de l'économie dépend encore beaucoup de la météo.
D'accord. Une récolte correcte, un pétrole sage, un dollar stable, une demande externe qui suit, ça fait pas mal de si. Si tout ça se goupille bien, la croissance de 4,5%, elle vient d'où principalement? C'est l'export qui tire tout ou c'est autre chose?
Alors là, le rapport est assez clair. Le moteur serait surtout domestique. Sur les 4,5 points de croissance attendus, c'est la consommation finale qui ferait le gros du travail, 3,3 points. Et là-dedans, ce sont surtout les ménages marocains. Eux contribueraient pour 2,3 points. On suppose que leurs dépenses augmenteraient de quasiment 4%, 3,9% pour être précis.
D'accord, les ménages.
Oui. Et l'autre gros morceau, c'est l'investissement. La fameuse FBCF, la formation brute de capital fixe, donc l'investissement des entreprises, de l'État, ça ajouterait 1,4 point de croissance.
Je vois.
Donc, la mécanique est simple. Si le pouvoir d'achat des ménages se maintient, et si l'investissement est là, et surtout s'il est efficace, ça peut marcher. On peut atteindre les 4,5%.
Ok. Donc, on compte beaucoup sur la demande intérieure, les ménages, l'investissement. Mais alors, pour tenir l'objectif de 3% de déficit, l'État, lui, il doit bien se serrer un peu la ceinture. On entend partout le mot « sobriété ». Ça signifie quoi au juste, cette sobriété obligatoire qu'on demande aux administrations? Des coupes sévères?
Alors, c'est moins des coupes spectaculaires à l'hache que de la discipline au jour le jour. Mais une discipline qui devient obligatoire via la circulaire budgétaire. C'est vraiment là-dessus que repose la crédibilité de l'objectif des 3%, en fait.
Mmh.
Concrètement, maîtriser les dépenses de fonctionnement courantes. On parle de la facture d'eau, d'électricité, de téléphone dans les ministères, les agences. Ça veut dire aussi réduire un peu le train de vie. Moins de missions à l'étranger si elles ne sont pas jugées essentielles, moins de réceptions, de cérémonies.
Ah oui.
Et puis, un point important, encadrer plus strictement le recours aux études externes, aux consultants, pour éviter de payer pour des choses qui existent déjà ou qui finissent dans un tiroir. Et il y a aussi une forte exigence de prioriser les investissements publics, se concentrer sur les projets vraiment stratégiques.
Les projets royaux, les conventions internationales.
Voilà, exactement. Accélérer leur mise en œuvre. Et un point crucial qui est nouveau, ou du moins renforcé, sécuriser le foncier, le terrain, avant même d'inscrire le projet au budget.
Ah, ça c'est intéressant.
Exploser les coûts et les délais, bien sûr.
On voit bien la logique côté dépenses. C'est très axé sur l'exécution, le pragmatisme. Mais côté recettes, est-ce qu'il y a une grande réforme fiscale en préparation, de nouveaux impôts pour boucler le budget?
Non, pas de révolution fiscale annoncée pour 2026. L'approche, ça semble être la continuité.
Continuité?
Oui, par rapport à la loi cadre 69-19 qui guide la réforme depuis quelques années. Mais on parle d'une continuité utile. L'idée, c'est surtout de renforcer les outils qu'on a déjà pour lutter contre la fraude, l'évasion fiscale. On considère que c'est là qu'il y a des marges de manœuvre.
D'accord.
Un exemple concret, c'est le marquage fiscal des carburants.
Pour lutter contre la contrebande, s'assurer que les taxes sont bien payées, ce système de traçabilité, on l'a déjà pour l'alcool, le tabac, on pourrait l'étendre à d'autres produits comme les boissons sucrées. On prépare aussi le terrain pour une future taxe carbone, mais bon, là, les détails, le calendrier, c'est encore flou. Et enfin, on cherche à faciliter les restructurations d'entreprises, les fusions, les scissions, en améliorant leur neutralité fiscale, pour ne pas freiner la compétitivité.
Ok, donc en résumé, pas de grands chocs fiscaux, mais plutôt un travail d'optimisation et de lutte contre les fuites, c'est ça?
C'est tout à fait ça, plus de l'ingénierie fiscale que des grandes annonces.
D'accord. Discipline sur les dépenses, optimisation des recettes, le plan a l'air cohérent. Mais bon, tout plan a ses risques. Quels sont les points faibles potentiels? Les cailloux dans la chaussure. Parlons de la dette publique, par exemple. C'est souvent un sujet qui inquiète.
Oui, bien sûr, il y a des points de vigilance importants. La dette du Trésor, par exemple. Fin juin 2025, elle était à 1 124,2 milliards de dirhams.
C'est énorme.
Oui, le montant est très élevé, il continue d'augmenter en valeur absolue, mais quand on regarde sa structure, elle est jugée globalement assez maîtrisée, assez résiliente.
Pourquoi ça?
Plusieurs raisons. D'abord, à peu près les trois quarts, 74% sont détenus localement par des banques marocaines, des assurances, donc ça réduit la dépendance aux marchés étrangers et aux risques de change. Ensuite, presque 90% est à taux fixe. Ça, c'est une bonne protection si les taux d'intérêt mondiaux s'envolaient.
D'accord.
Et enfin, sa durée de vie moyenne est assez longue, presque 8 ans et 2 mois. Ça veut dire que les remboursements sont étalés dans le temps.
Ok, donc le stock est gros, mais la structure est plutôt saine, si je comprends bien. Alors, où est le risque? Le coût, peut-être?
Exactement. C'est là qu'est le problème. Il y a deux points de vigilance principaux. Le premier, c'est le calendrier des remboursements. Il faut éviter les années où il y a trop d'échéances en même temps, sinon ça met une pression folle sur la trésorerie. Et le second, c'est le coût, la charge d'intérêt. Elle reste très très élevée. On prévoit 45,1 milliards de dirhams juste pour payer les intérêts en 2025.
45 milliards?
Oui. C'est la conséquence directe des hausses de taux que Banque Al-Maghrib a dû faire en 2022-2023 pour calmer l'inflation. Même si les taux ont rebaissé depuis, on paye encore la facture de cette période. Et ces 45 milliards, c'est de l'argent qui ne va ni à l'investissement ni au service public, quoi.
Oui, ça pèse forcément lourd dans la balance. Le rapport que vous citez parle aussi d'une alerte silencieuse sur les comptes spéciaux du Trésor, les CST. Qu'est-ce que c'est? Et pourquoi cette alerte?
Alors, les CST, les comptes spéciaux du Trésor, ce sont un peu comme des budgets annexes, si vous voulez. Ils sont créés pour gérer des opérations bien spécifiques, avec des recettes qui leur sont dédiées. Par exemple, un fonds pour les catastrophes naturelles ou pour financer un programme social précis. Ça donne de la souplesse.
D'accord.
L'alerte, elle vient du fait qu'en 2024, pour la première fois depuis un moment, le solde global de tous ces comptes est devenu négatif. Moins 6,4 milliards de dirhams. Et ça s'explique surtout par deux gros comptes. Celui qui finance la généralisation de la protection sociale, moins 7,8 milliards. Et celui pour gérer les suites du séisme d'Al-Aouz, moins 5,3 milliards.
Ah oui, quand même.
Oui. La situation s'est un peu redressée mi-2025, le solde global est repassé en positif, à plus 3 milliards. Mais bon, on est loin du solde qu'on avait mi-2024, qui était de plus 8,8 milliards.
D'accord, les chiffres sont clairs. Mais en quoi c'est si inquiétant? Si le budget général finit par combler le trou, où est le problème finalement?
Le problème, il est plus structurel. Les CST, normalement, ils doivent fonctionner avec leurs propres recettes, qui couvrent leurs dépenses spécifiques. Si certains comptes, surtout ceux qui financent des dépenses maintenant permanentes et très importantes comme la protection sociale, sont structurellement en déficit, ça veut dire que leurs recettes dédiées ne suffisent plus. C'est leurs ressources propres, ou est-ce qu'il faut réintégrer certaines dépenses dans le budget général avec plus de transparence, plus de contrôle du Parlement? C'est une vraie question.
C'est beaucoup plus clair, oui. Bon, on a vu la dette, les CST. Un autre élément clé, c'est la politique monétaire. Banque Al-Maghrib a baissé son taux directeur. Il est maintenant à 2,25%. Est-ce que ça, au moins, ça ne donne pas une bonne bouffée d'oxygène pour aider l'économie et le budget?
Ça aide, c'est sûr. La Banque centrale a profité du fait que l'inflation soit revenue à des niveaux très bas. On attend autour de 1,1% pour 2025. Donc, elle a pu assouplir sa politique. L'autodirecteur est passé de 3% à 2,25% en trois baisses successives entre mi-2024 et mi-2025.
Oui.
En théorie, ça devrait rendre le crédit moins cher pour les entreprises qui veulent investir, pour les ménages qui veulent consommer.
Mais il y a un mais.
Mais le mais classique, c'est toujours la question de la transmission. Est-ce que cette baisse du taux directeur se répercute vraiment, vite et complètement sur les taux d'intérêt que les banques proposent à leurs clients ? On a vu tout à l'heure que le coût de la dette de l'État restait élevé à cause des taux passés. C'est un peu pareil pour les entreprises et les ménages.
D'accord.
Donc, la baisse du taux directeur, c'est un signal important, c'est un facilitateur. Mais son impact réel, ça va dépendre de la volonté des banques de prêter, de la confiance des acteurs économiques et aussi de la discipline budgétaire dont on parlait. Si l'État doit trop emprunter sur le marché local, ça peut évincer les autres emprunteurs et maintenir les taux réels assez hauts malgré la baisse du taux directeur.
Donc, même une bonne nouvelle comme celle-là n'est pas une solution miracle en soi. Entrons un peu plus dans certains détails. La réforme de la compensation, par exemple, ça touche directement le portefeuille des gens avec le gaz butane. On en est où exactement et quel rôle ça joue dans ce plan 2026 ?
C'est une réforme absolument clé. Depuis le 20 mai 2024, l'État a commencé à réduire la subvention sur le gaz butane. La petite bonbonne de 3 kg a augmenté de 2,5 dirhams et la grande de 12 kg de 10 dirhams.
Ouais.
Mécaniquement, ça réduit la charge de compensation dans le budget de l'État. C'était une dépense très lourde et très imprévisible parce qu'elle dépendait des cours mondiaux. Pour 2026 et après, le défi est double. D'un côté, il faut continuer cette décompensation parce que le butane est encore pas mal subventionné.
Et de l'autre ?
Et de l'autre, et c'est absolument essentiel, il faut que le système d'aide sociale directe qui est mis en place en même temps soit vraiment efficace, qu'il cible bien les ménages vulnérables pour compenser cette hausse de prix. On en revient à ce qu'on disait au début, il faut que la consommation des ménages tire la croissance. Si la hausse du prix du gaz étouffe les budgets modestes sans une compensation suffisante, ce moteur de croissance risque de tousser. L'équilibre est très très fin à trouver.
Un vrai numéro d'équilibriste, en effet, entre le social et le budgétaire. Autre point qui ressort, le Maroc investit énormément. On parle de 30,4% du PIB en 2025. C'est un taux très élevé par rapport à beaucoup d'autres pays. Est-ce que ce niveau d'investissement, c'est une garantie de succès ?
C'est un atout, c'est certain, d'avoir un tel niveau d'investissement. Mesuré par la FBCF, la formation brute de capital fixe. Après un gros bond de plus 12,8% en 2024, on vise encore plus 6,4% en 2025. Maintenir un effort d'investissement au-dessus de 30% du PIB, c'est vraiment considérable. Mais, et c'est un gros mais sur lequel le cadrage budgétaire insiste beaucoup, le volume, ça ne fait pas tout. La question qui devient décisive, c'est quelle est l'efficacité de cet investissement ? Est-ce que chaque dirham qu'on met dans un projet génère assez de croissance, assez d'emplois, assez de compétitivité ? Le gouvernement semble en avoir conscience. Il met l'accent sur une sélection plus dure des projets priorités aux infrastructures critiques, aux projets royaux structurants, sur l'accélération de leur réalisation aussi, et sur la résolution des blocages, comme le foncier, on en a parlé. Quand on pense aux 45 milliards juste pour les intérêts de la dette, et au service total de la dette, capital plus intérêt, qui dépasse 107 milliards en 2025,
oui.
On comprend qu'on n'a plus les moyens de financer des projets mal ficelés ou qui prennent 10 ans de retard. L'efficacité de l'investissement devient aussi importante, voire plus que son volume.
L'efficacité, le maître mot, décidément. Dernier point qui m'a intrigué. Le budget 2025 compte sur 35,3 milliards de dirhams de financement innovant. Le terme est un peu... marketing, non ? De quoi s'agit-il vraiment ?
C'est vrai que le terme peut faire sourire. En fait, ces financements innovants, ça regroupe surtout des recettes qui sont exceptionnelles et qui ne sont pas des impôts. Il s'agit en grande partie de cessions d'actifs de l'État, des ventes de terrains, de bâtiments ou de participations que l'État détient dans certaines entreprises.
D'accord.
À ça, il faut ajouter des contributions importantes qui viennent de grands établissements et entreprises publiques. L'ANCFC, l'Agence du foncier, l'OCP, le géant des phosphates, ou même Banque Al-Maghrib, la Banque centrale. Toutes ces entités versent des dividendes ou des contributions exceptionnelles au budget général. Pour 2025, ça représente 16,6 milliards de dirhams, qui s'ajoutent aux 35,3 milliards d'autres opérations de ce type.
Donc, si je résume simplement, on vend des bijoux de famille et on demande un effort aux grandes boîtes publiques pour boucler les fins de mois budgétaires. C'est ça l'innovation. Ça pose quand même question, non ?
Disons que c'est une solution pragmatique pour atteindre les objectifs du budget sans augmenter les impôts ou creuser le déficit à court terme. Ça permet de passer un cap difficile,
Mais vous avez raison, ça soulève de vraies questions de gouvernance et de soutenabilité. D'abord, la transparence. Qu'est-ce qu'on vend exactement? À qui? À quel prix? Ensuite, l'utilisation de cet argent. Est-ce que ça finance de l'investissement productif, auquel cas c'est un simple changement d'actif pour l'État? Ou est-ce que ça sert à payer des dépenses courantes? Et là, ça revient un peu à manger son capital. Et surtout, c'est par nature non récurrent. On ne peut vendre un bien qu'une seule fois. Donc on ne peut pas construire un équilibre budgétaire durable sur ce genre de recettes. C'est un outil ponctuel, mais ce n'est pas une stratégie de fond.
Alors, si on essaie de mettre toutes les pièces ensemble, cet objectif de 3% de déficit et 4,5% de croissance en 2026, il n'est pas complètement fou sur le papier, il est basé sur des hypothèses. Mais ce qui ressort vraiment de tout ce qu'on a dit, c'est que la clé de tout, c'est un seul mot, exécution.
C'est exactement ça. La crédibilité de ce plan, elle ne se joue pas tant dans l'annonce des chiffres que dans la capacité réelle à les atteindre sur le terrain. Est-ce que la discipline sur les dépenses de fonctionnement sera vraiment tenue? Est-ce que la lutte contre la fraude va vraiment donner des résultats? Est-ce que la réforme de la compensation va trouver ce fameux équilibre social? Est-ce que les investissements seront vraiment mieux choisis, plus vite réalisés? Et bien sûr, est-ce que les conditions externes, la météo, le prix de l'énergie, la demande mondiale seront bien au rendez-vous? 2026, ça va être un vrai test de la rigueur et de la capacité de mise en œuvre de tout l'appareil d'État.
Ce qui nous amène à une dernière pensée, peut-être un peu plus large. On voit bien cette forte dépendance à la demande intérieure, ce besoin crucial d'efficacité dans l'investissement public, cette nécessité d'une exécution quasi parfaite. Au-delà des chiffres, au-delà des mécanismes économiques purs, quel pourrait être le facteur non économique le plus déterminant ? Est-ce que ce serait, par exemple, la capacité réelle des administrations sur le terrain à suivre le rythme, la fluidité de la coordination entre les ministères, ou peut-être quelque chose d'encore plus difficile à mesurer, comme la confiance. La confiance des citoyens, des entreprises dans la direction que prend le pays. Qu'est-ce qui pourrait, finalement, faire pencher la balance entre la réussite et l'échec de ce plan ? Voilà une question à laisser mûrir. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette analyse.